Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allahi qarib Ala inna nasrallahi qarib Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi soir, 17 décembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran est contre tout acte de sabotage, tout agissement de nature destructive, pouvant porter atteinte à la sécurité et à la sûreté maritime, ainsi qu'à la liberté de navigation, a fait savoir le porte-parole de la diplomatie iranienne. Un convoi logistique militaire américain a été endommagé alors qu'il traversait une zone proche de la capitale irakienne, Bagdad, et le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. C'était les titres, en voici le journal. L'Iran est contre tout acte de sabotage, tout agissement de nature destructive pouvant porter atteinte à la sécurité et à la sûreté maritime ainsi qu'à la liberté de navigation, a réitéré le mercredi 16 décembre le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Interrogé sur l'explosion et l'incendie d'un pétrolier en mer Rouge, le diplomate iranien a déclaré « La République islamique d'Iran désapprouve tout agissement et tout acte de sabotage qui sape la sécurité et la sûreté des transports maritimes et la liberté du commerce international. » Il a ainsi insisté sur la position de principe de la République islamique d'Iran qui est pour le maintien de la stabilité et de la sécurité régionale. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a émis l'espoir de voir les pays de la région intensifier leurs efforts pour renforcer la coopération en matière de la sécurité maritime, de la lutte contre la piraterie et de la lutte contre le trafic de drogue illicite afin de parvenir à une sécurité régionale durable. La société britannique de sécurité maritime Embraer a récemment déclaré qu'un pétrolier grec a été endommagé par une mine dans un port saoudien aux abords du terminal de Jukaik. Le pétrolier Agrari, qui bat pavillon maltais, est exploité par l'armateur grec TMS Tanker, selon Embraer. Selon les informations, l'incident n'a fait aucune victime ni blessé. Le port où s'est produit l'incident est situé en mer Rouge, au nord de la frontière yéménite, où une guerre dévastatrice menée par Riyad est en cours. En Irak, un convoi logistique militaire a été endommagé mercredi 16 décembre, alors qu'il traversait une zone proche de la capitale irakienne Bagdad, selon la chaîne d'information irakienne Sabery News. La soi-disant coalition internationale dirigée par les États-Unis n'a pas encore commenté cette nouvelle, et la provenance et la destination du convoi logistique n'ont pas toujours été révélées. La chaîne de télévision Al-Mayadin a rapporté qu'un groupe connu sous le nom de Rassim al-Jabrin avait revendiqué l'attaque. Par ailleurs, certains médias irakiens ont rapporté mercredi qu'un drone appartenant au commandement des opérations de Bagdad a été abattu lundi près du conseil de la Cour suprême dans le quartier d'Al-Harissiya. La source, qui souhaitait garder l'anonymat, a déclaré que le drone avait été abattu par une dessale laser déployée dans l'ambassade des États-Unis et que celle-ci s'était excusée pour cela. L'ambassade américaine a tenté de justifier cette attaque en prétendant qu'elle s'inquiétait de savoir à qui appartenait le drone. Selon Sabahin News, le drone de type fixed wing avait été abattu par erreur par le système de défense déployé au sein de l'ambassade américaine alors que celui-ci n'a pas pu déterminer à qui appartenait l'aéronef. Cependant, le commandant du Centre des opérations interarmées en Irak a annoncé dans un communiqué que des informations publiées sur les réseaux sociaux à ce sujet n'étaient pas pertinentes. De nombreux politiciens irakiens estiment que les États-Unis ont transformé leur ambassade à Bagdad en une base militaire au cœur de la capitale, en déployant des missiles et des systèmes de défense ainsi que des troupes, et que tout cela constituait une menace pour la sécurité de Bagdad et d'autres villes irakiennes. Les forces armées turques se retireront des deux derniers postes d'observation situés près du village de Tel Touran dans le sud d'Idlib et sur la colline d'Aleis dans l'ouest d'Alep, en Syrie. Le processus d'évacuation a commencé le mercredi 16 décembre. Les forces turques se sont dirigées vers le village de Marat al-Narsan dans la banlieue ouest d'Alep, ont annoncé les sources sur le terrain. La semaine dernière, les troupes turques se sont retirées de quatre postes d'observation entre le sud d'Idlib et l'ouest d'Alep, tous situés le long de l'autoroute M5. Le retrait turc montre qu'Ankara craint une nouvelle confrontation à Idlib. Et c'est pour cette raison que les autorités turques ont fini par décider d'évacuer les postes de contrôle installés au nord de la Syrie. Sachez aussi que des mercenaires pro-Turquie se sont retirés de la région du Haut-Karabakh où ils se sont abattus par l'Azerbaïdjan dans une bataille houleuse. Des mercenaires ont été envoyés au Haut-Karabakh par la Turquie qui a soutenu l'attaque de l'Azerbaïdjan contre les forces arméniennes dans la région. L'attaque qui a débuté le 27 septembre a pris fin le 9 novembre dans le cadre d'un accord de paix négocié par la Russie. Le dernier, le mercenaire syrien, est rentré en Syrie depuis le Haut-Karabakh il y a quelques jours. Environ 800 étaient encore dans la région avant le retrait définitif. Pendant ce temps, le sort de 240 terroristes reste jusqu'à présent dans un halo d'incertitude, tandis que les autres sont retournés en Syrie à la fin de leur mission et que le gouvernement azerbaïdjanais a refusé de les maintenir en Azerbaïdjan. Chacun des mercenaires à la solde de la Turquie s'est vu promettre un salaire mensuel allant jusqu'à 2 000 $. Pendant la majeure partie de la bataille, des mercenaires à la solde d'Ankara ont été déployés sur les lignes de front les plus chaudes du Haut-Karabakh où ils ont été utilisés comme chair à canon par les forces azerbaïdjanaises. La Turquie prévoyait d'installer les mercenaires et leurs familles dans le Haut-Karabakh pour établir une influence durable dans la région. Cependant, l'Azerbaïdjan a rejeté ce plan et a insisté pour que tous les mercenaires rentrent en Syrie. Le retrait des terroristes aidera à stabiliser le Haut-Karabakh et facilitera le retour des déplacés. La marine russe organise un exercice en Méditerranée au large des côtes syriennes. La frégate de la flotte de la mer Noire, Amiral Hessen, a organisé des exercices de défense aérienne et des forces navales en Méditerranée. Tout en pratiquant la tâche du cours, les marins ont organisé divers exercices à embarquer pour préparer le navire à une bataille et à son déploiement, assurer la défense aérienne et contrôler les avaries pendant l'ancrage du navire à un point logistique, a indiqué le bureau de presse de la flottille dans un communiqué. Les forces de la marine ont également pratiqué la défense anti-saboteur du navire pendant son ancrage dans un port et pris des mesures dans les délais requis pour préparer la frégate à recevoir des armes et des munitions et assurer la maintenance de l'armement et des mécanismes du navire, indique le communiqué. La frégate Amiral Hessen accomplit des tâches au sein du groupe de travail méditerranéen permanent de la marine russe. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. Il avait fermé ses frontières en août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. Les autorités nigérianes ont indiqué sur Twitter que le président Muhammadu Buhari avait ordonné l'ouverture immédiate de 4 frontières terrestres, Sémé, Ilela, Maïgatari et Mfon. Cette annonce vient mettre fin à plus d'un an de tensions commerciales entre le Nigeria et ses voisins, plus précisément le Bénin. En août 2019, le Nigeria avait en effet annoncé la fermeture de ses frontières avec le Bénin officiellement pour lutter contre la contrebande de riz et d'autres produits en provenance de l'extérieur qui inondaient le marché nigérian. Il y a quelques jours, le président Buhari a annoncé que cette mesure était en partie destinée à contrôler la contrebande d'armes et de drogue au niveau des frontières. Maintenant que le message est passé avec nos voisins, nous envisageons de rouvrir les frontières dès que possible, avait-il noté. Cette réouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité. Cette réouverture des frontières, tant attendue par les hommes d'affaires, intervient un mois après que le gouvernement nigérian ait ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF. Ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Message d'apaisement de Rabat à Alger, mais il est déjà trop tard. À peine quelques heures après l'intervention largement suivie du porte-parole du gouvernement algérien et ministre de la Communication, Amar Belimar, sur la chaîne Al-Mayadin, chaîne de la résistance où l'intéressé a dénoncé la normalisation du Maroc avec Israël et mis en garde contre toute implantation de l'entité sioniste sur les frontières avec l'Algérie, un très significatif crash d'hélicoptère militaire se produit. Selon les médias algériens, lors d'une mission de vol d'entraînement technique, le mercredi matin 16 décembre, un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire de type MS-25 Merlin, relevant du commandement des forces navales, s'est écrasé au large de la mer, au nord-ouest des côtes de la ville de Bouaroun. L'incident pourrait ne pas avoir de lien avec la normalisation Rabat-Israël et ce honteux casus belli US à l'adresse Alger que constitue la reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. N'empêche que ce crash pourrait être aussi un avertissement. La présence israélienne en Méditerranée occidentale est une calamité et comme l'a affirmé le porte-parole du gouvernement algérien, Alger reste ferme sur ses positions antisionistes et il est prêt à tous les scénarios. Il a confirmé que le président algérien Abdelmadjid Tebboune était au courant de la situation actuelle et que l'Algérie n'avait pas été surprise par la démarche du Maroc de normaliser les relations avec Israël, car, selon ses propres termes, les relations entre Rabat et le régime israélien remontent à plus de 60 ans. Si le Maroc souhaite atteindre des objectifs politiques à travers cette normalisation ou changer notre position sur des questions justes, il se fait des illusions, a-t-il conclu. Or, les premiers signes d'inquiétude ont commencé à apparaître le mercredi à Rabat. Alors que Mohamed VI a ordonné l'interdiction de toute manifestation anti-israélienne et anti-normalisation, par crainte de voir des millions de Marocains déjà en colère descendre dans la rue et dénoncer cet extrême affront qu'est le mépris affiché par les États-Unis et le trône à leur encontre, puisque la décision a été annoncée via un tweet de Trump, comme si le Maroc est un protectorat américain. Le roi chérifien vient d'envoyer un message d'apaisement à Alger, comme quoi sa trahison n'avait aucun caractère offensif anti-Algérie. Plus d'analystes y voient moins d'un appel à l'apaisement que la sourde crainte du trône d'une chose. L'enlisement dans une guerre d'usure au Sahara, où le Front Polisario semble déjà avoir le dessus, et à qui pourrait s'empirer si l'armée algérienne se faisait engager de façon plus poussée. Car tous les scénarios auxquels est prêt Alger consistent aussi à ce que l'axe US à Israël à l'origine de l'escalade au Sahara soit puni comme cela convient. Mais il y a une autre crainte que nourrit Braba à l'encontre d'une Algérie en colère. L'appui algérien au mouvement antisioniste marocain, qui n'en est qu'à son début, mais qui, vu son ampleur, risque d'éclater à tout moment. Déjà, la presse alerte au Maroc évite d'utiliser le mot « normalisation », préférant de le remplacer par le mot « paix ». Mais ce genre d'acrobatie verbale ne saurait effacer l'affront que sentent au plus profond de leur être les fiers Marocains pro-palestiniens.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ces récents développements relatifs au Yémen. Le ministère yéménite des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a condamné les politiques et les positions honteuses des États-Unis envers des pays libres et indépendants. Le ministère yéménite des Affaires étrangères, bien sûr, là je parle en fait du gouvernement yéménite basé à Sanaa, dans son communiqué a condamné fermement les sanctions américaines contre l'ambassadeur d'Iran en poste à Sanaa. Pour rappel, en représailles en fait à cette politique honteuse des États-Unis, l'Iran a sanctionné l'ambassadeur US au Yémen. Et toujours dans ce contexte, il y a eu cette attaque contre un pétrolier dans le port saoudien de Jeddah. Et là aussi, c'était un autre échec, une autre défaite cuisante pour le régime agresseur saoudien. Vous savez très bien que l'Arabie saoudite a confié sa sécurité à des pays étrangers, les États-Unis et la Grande-Bretagne, réagissant à cette attaque contre ce pétrolier dans le port saoudien de Jeddah. Il y avait en fait un responsable du Conseil suprême yéménite, c'est-à-dire le gouvernement basé à Sanaa, a dit il semblerait que les Américains et les Britanniques soient incapables, inaptes à assurer la sécurité des ports saoudiens. Eh bien, si Riyad nous en fait la demande, on le ferait à leur place. Et toujours dans ce contexte, il y a eu cette prise de position du porte-parole et du mouvement d'Ansar Allah qui a souligné que la poursuite du blocus et la fermeture de l'aéroport international de Sanaa ainsi que du port de Hudaïda est un crime commis contre le peuple yéménite. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse, depuis la France. Il s'agit de M. Pierre Dortiguet, philosophe et spécialiste français des questions internationales. M. Dortiguet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir, M. Neurostine. Bonjour à vous-même, à vos auditeurs et à Maître Develet.
M. Dortiguet, on va commencer avec vous et notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Il y a eu en fait cette récente prise de position des Américains contre le Yémen en ce qui concerne en fait l'ambassadeur iranien en poste à Sanaa. Il y a eu cette attaque contre un pétrolier dans le port saoudien de Jeddah. Il y a également ces victoires spectaculaires, M. Dortigay, de ces jours-ci, si vous voulez, du peuple yéménite, de la résistance yéménite sur le terrain contre les agresseurs, très particulièrement dans la province de Ma'arib. Comment expliquez-vous de ces développements relatifs au Yémen, M. Dortigay, s'il vous plaît?
Eh bien, justement, ces développements spectaculaires, comme vous dites, M. Neurostin, montrent d'abord un premier point, c'est-à-dire la capacité non seulement de se battre, mais également de maintenir les victoires acquises de la part de la résistance yéménite. Il ne s'agit pas simplement de porter des coups, mais de chasser définitivement de certaines parties de territoire des occupants. Et je crois que, de ce point de vue, c'est la durée l'effet durable de cette résistance qui, impressionne, bien sûr, à la fois les amis et surtout les adversaires du Yémen. Il y a la dernière action qui a été opérée dans le port de Jeddah contre ce navire britannique est également une action que je me permettrais de qualifier de très intelligente, puisque, n'ayant pas fait de victimes, elle a, montré les capacités qu'aurait, la résistance de frapper plus lourdement, voyez-vous, ceux qui, comme les Britanniques, bien sûr, et les Américains, ont mené une lutte de soutien, aux clients de l'Arabie Saoudite. Ceci étant dit, on pourrait évidemment dire plus de choses. On pourrait ajouter, qu'il y a des bruits qui courent de demandes de deal, vous voyez, de sorte de concessions, de compromis plutôt, entre les États-Unis et la résistance d'Ansarallah. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que la résistance a frappé? C'est fort possible. En tout cas, nous sommes nous-mêmes très surpris, non seulement de la capacité de la résistance, mais, je répète encore, de l'intelligence même des coups qui sont portés.
Merci beaucoup. Là, vous faites allusion, M. Dortigay, à ce message secret qui aurait été envoyé en jeu par des informations diffusées par certains médias, par les États-Unis, au mouvement d'Ansarallah yéménite, le mouvement d'Ansarallah yéménite qui de signe persiste que de ce mouvement est tout à fait favorable au dialogue. Il a été en fait toujours favorable, mais la résistance yéménite insiste sur ce point que le régime agresseur saoudien doit tout d'abord mettre un terme à sa guerre d'agression, au blocus du Yémen, au blocus du peuple yéménite, pour ensuite arriver à l'autre étape qui consiste à engager des négociations et des pourparlers. Maintenant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Develé. Maître Develé, bonjour. Rebonjour. Vous venez d'entendre les explications de M. Dortigay. Votre analyse, s'il vous plaît.
Eh bien, écoutez, tout d'abord, à titre préliminaire, je dirais que les remarques faites par Washington à l'égard de l'ambassadeur iranien au Yémen traduit un certain désarroi devant une situation qui maintenant a complètement, complètement basculé. La dynamique, la donne est complètement inversée. Ansarallah et le gouvernement yéménite a démontré ses capacités non seulement à sanctuariser son territoire, à consolider ses gains militaires, mais aussi à maintenant amener le combat au cœur même de l'Arabie Saoudite. Et, rappelons-nous qu'il y a déjà 2 ans de cela, les installations pétrolières à l'est de l'Arabie Saoudite avaient été gravement endommagées par la résistance yéménite, portant ainsi un coup assez important à la capacité économique de l'Arabie Saoudite en tant que telle. Mais maintenant, en ayant on peut présumer, porter un coup au trafic, au flot de pétrole qui arriverait, qui partirait d'Arabie Saoudite. Le message est maintenant très clair. Oui, nous sommes disposés à discuter avec les conditions telles que nous les avons mises en avant et que ça fait déjà un certain temps. Mais nous n'hésiterons pas à continuer à notre effort de guerre et jusqu'à sa logique la plus impitoyable pour peu que nos droits ne soient pas respectés. Ce qui explique effectivement que les Américains sont en pleine panique, avec en toile de fond cette transition laborieuse aux États-Unis qui les rend d'autant plus vulnérables. Et on assiste effectivement à des déclarations. La dernière en date étant celle de Mike Pompeo qui n'a pas pu résister à la tentation d'impliquer l'Iran en laissant entendre que l'Iran déstabilisait la région. Mais enfin bon, tout ça, c'est le discours trumpiste, c'est la doctrine dite de doctrine de pression maximale. Mais de toute évidence, Ansarullah, le gouvernement yéménite Sanaa est en train de devenir une puissance régionale avec laquelle il faut raconter, et ce pour des années à venir. N'oublions pas qu'après la série de victoires éclairs et la consolidation de cette région stratégique de Marib, maintenant la résistance se tourne vers l'est du Yémen, vers une province qui jusqu'à présent n'a pas été affectée par les combats, mais que les anglo-saxons comptent utiliser pour maintenir une présence, si je puis dire, dans la région immédiate en termes d'exploitation pétrolifère. Et même cette province maintenant est dans le collimateur de la résistance, ce qui veut dire qu'à moins que les gens reviennent à la raison, à ce rythme-là, on peut facilement anticiper que le Yémen sera complètement libéré de toute interférence occidentale.
Mais la résistance yéménite, M. Dortiguet, a démontré ses capacités pour reprendre et l'expression employée tout à l'heure par Maître de Develay. M. Dortiguet, vous vous en souvenez, en fait, en 2015, lorsque le régime saoudien a lancé cette guerre d'agression contre le Yémen, il a dit voilà qu'il va en finir avec cette guerre dans deux ou trois semaines. Mais plusieurs années après, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Maître de Volley, la résistance yéménite a ramené en fait la guerre au cœur même de l'Arabie Saoudite, la résistance yéménite qui avait déjà lancé une mise en garde contre en fait les autorités saoudiennes en disant que désormais les installations militaires et pétrolières de ce régime sont des cibles légitimes pour la résistance. Et si il n'y a pas, si vous voulez, cette décision du côté du régime saoudien de vouloir mettre un terme à cette guerre d'agression. Monsieur Dortiguet, maintenant, la résistance yéménite est en position de force. A-t-elle enseigné, Monsieur Dortiguet, que, comme je viens de le dire au début de notre émission, la résistance avance une proposition à l'égard du régime de Riyad, comme quoi, si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de vos ports, s'il y a une demande de votre part, nous sommes disposés à le faire, M. Dortiguet.
Oui, il ne s'agit pas là seulement, M. Nourostine, d'une ironie de la part des Yéménites, mais aussi d'une avancée politique, parce que pas seulement militaire, mais politique très importante. C'est-à-dire qu'on pourrait définir de façons. D'abord, l'Arabie Saoudite ne peut pas assurer sa propre économie, la sûreté et l'avenir de sa propre économie si elle n'accepte pas, disons, la présence politique d'un Yémen qu'il ne s'agit pas de contrôler, mais de laisser vivre comme il l'entend. Car il faut que nos auditeurs le sachent, surtout les jeunes auditeurs, que cette invasion du Yémen, cette opération contre le Yémen est très ancienne. C'est-à-dire qu'elle date, je l'ai eu l'occasion de le dire chez vous, déjà de l'époque du président Nasser, vous êtes en Égypte. Donc c'est un très vieux projet de l'Arabie Saoudite, en réalité, de neutraliser le Yémen. Or, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le Yémen, par sa résistance, sa force de résistance, a maintenant, disons, dépassé, peut-on dire, le stade militaire pour pouvoir influer politiquement même, c'est-à-dire frapper ou disons inquiéter même la santé politique, l'avenir politique de l'Arabie Saoudite. J'entends par avenir politique, non pas la présence de tel ou tel dirigeant, mais disons ce qu'on pourrait appeler la stabilité sociale, la stabilité économique du pays. Et cela est très important. C'est-à-dire qu'on pourrait même traduire cette proposition yéménite par le fait que vous ne pouvez pas, vous, en Arabie Saoudite, maintenir votre propre présence économique, assurer un statut convenable à votre population, disons, si vous n'acceptez pas la présence du Yémen, si vous ne lâchez pas le Yémen, car le Yémen peut collaborer avec vous, mais en aucun cas, disons, votre avenir économique ne sera, assuré si vous maintenez cette vieille idée, ce vieux préjugé, disons, de réduire le Yémen, y compris en employant, comme vous le savez, des mercenaires soudanais, etc. C'est arrêter de faire ce qu'on pourrait appeler autrefois une guerre coloniale. Voilà, je crois que c'est un stade très important de maturité atteint par la résistance yéménite, et je crois que ceci va inquiéter, à juste titre, justement, les forces politiques à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, et non pas simplement telle ou telle, disons, section de la famille royale ou autre chose. Je crois que c'est la société elle-même en Arabie Saoudite qui s'inquiète à juste titre, justement, de son avenir, et qui donc poussera, je le crois, fatalement le gouvernement, pour des motifs économiques, des motifs sociaux, disons, à arrêter cette vieille ambition de neutralisation du Yémen qui était toute soutenue toujours évidemment par des puissances étrangères.
Vous voulez dire que le régime saoudien n'a d'autre choix désormais que de se soumettre au bon vouloir du peuple yéménite.
Oui, en effet, il faut le dire. Ce n'est pas du tout, disons, dans un surentend de brutalité, mais un ton de réalisme. C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, un État ne peut pas vivre sans tenir compte de la présence de son voisin, surtout lorsqu'il y a quand même, disons, on le sait très bien dans l'histoire arabe, je ne dis pas une fusion, mais enfin, disons, le Yémen et ce qui autrefois était l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, formaient quand même une réalité sur le plan économique, sur le plan culturel et autres. Ce qu'on appelait avant l'Arabie heureuse, vous voyez, la Félix Arabia. Donc, je crois que là-dessus, les machinations qui sont liées à la famille saoudienne, non pas au pays saoudien, mais à la famille saoudienne, devront évidemment être abandonnées. Ça, c'était un vieux rêve d'exploitation britannique, par exemple au départ, que les Américains ont repris, vous savez, à partir de 1945, en appuyant la dynastie. Non, ce n'est plus une question de défense de dynastie, de défense d'intérêts privés. C'est une question, disons, d'avenir commun à toute la péninsule arabique.
Maître de Velette, s'agissant toujours en fait du Yémen et de cette guerre d'agression contre le pays, est-ce que vous aussi vous estimez, comme M. Dortiguet, que là il faut faire une distinction entre la famille royale et l'Arabie Saoudite en tant qu'un pays, qu'une nation?
Écoutez, j'allais presque dire oui et non, parce que l'Arabie Saoudite est de facto associé à la famille royale. Et la famille royale est un facteur de stabilité pour peu que les bonnes décisions soient prises. Donc la vraie question qui se pose au sommet de l'État saoudien, qui est vraiment en charge et quelles sont les pressions exercées de telle sorte que la raison ne l'emporte pas. Je crois que c'est ça la vraie question. Pour effectivement souligner ce que disait le professeur Dortiguet, pour 2020, il est projeté que l'Arabie Saoudite va générer un déficit de 80 milliards de dollars, ce qui est quand même assez sans précédent pour ce qui la concerne, et que toute tentative effectivement de négocier un cessez-le-feu et un accord avec le gouvernement yéménite en devenir semble en plus être de l'extérieur contrecarré par la récente décision de Washington d'inscrire la résistance yéménite sur la liste des organisations terroristes. Ceci dit en passant, complique considérablement toute tentative de négociation, de discussion, et au-delà de ça, bien sûr, d'assistance humanitaire au peuple yéménite. Donc on voit bien que certaines mesures sont prises pour quelque part cornaquer Riyad dans une situation où il lui serait impossible, même s'il le souhaitait, de s'asseoir à la table de négociation et d'engager un dialogue de bonne foi, constructif, et qui soit à terme au bénéfice des deux pays. Effectivement, comme l'a souligné le professeur Tantiguet, historiquement, la péninsule est unie. Ce sont les mêmes peuples, les mêmes tribus. Il y a des mariages entre les tribus. Donc, au travers d'une tradition pluriséculaire, les artifices politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui n'ont aucun poids. Donc, l'intérêt vraiment de Riyad et de Sanaa, c'est de s'asseoir et d'arriver à une forme de vivre ensemble, si vous me pardonnez l'expression, qui permettrait aux deux pays de bénéficier mutuellement des ressources naturelles et de la position stratégique qui est la leur, et de s'émanciper. Et c'est ça, c'est là, à mon avis, là où le bât blesse, c'est que le résultat net d'un tel processus serait une émancipation politique de facto de la péninsule arabique. Et ça, le monde anglo-saxon et le monde occidental de manière plus générale ne le veut pas. Donc il faut raison garder.
Pourquoi, maître de Velay, pourquoi le monde occidental ne le veut pas, monsieur Dortig, monsieur de Velay?
Bah, écoutez, pour plusieurs raisons. La première, on va être un peu grossier, mais c'est le business. En fait, l'idée, c'est d'entretenir un conflit artificiellement, de telle sorte que les États profonds occidentaux, les bureaucraties permanentes occidentales, puissent continuer à vendre des armes, des systèmes d'armement sophistiqués, et à faire rentrer des devises pour ces élites qui, de toutes les manières, ont fait sécession avec leur propre peuple en Occident. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur un plan géostratégique, c'est alors que la situation au Levant, au nord, donc en Syrie, en Irak, apparaît de plus en plus précaire pour la présence occidentale, c'est vrai que la péninsule arabique apparaît de manière traditionnelle comme l'un des derniers points d'ancrage. Et s'il venait à y avoir un accord de paix entre le Yémen et l'Arabie saoudite, cet ancrage finirait par disparaître complètement. La troisième raison, c'est bien sûr le soutien occidental à l'entité sioniste. L'entité sioniste a un agenda dans la région, et pour accomplir cet agenda, elle a besoin que l'Occident reste impliqué de gré ou de force dans les divers conflits qui sont, encore une fois, menés artificiellement, entretenus artificiellement, mais qui lui permettraient donc à l'entité sioniste de pouvoir, de manière dissimulée, avancer ses pions. Et quand on sait que l'État sioniste a établi une présence dans l'île de Socotra, par exemple, sans un appui occidental, et je parlais de cette province à l'est du Yémen, c'est justement l'idée de faire la connexion entre les deux et pour prendre le gouvernement de Sanaa, si je puis dire, entre deux feux. Hein. Donc, ce sont les trois raisons principales pour lesquelles l'Occident, pour peu qu'il ait des responsables politiques indépendants et bienveillants vis-à-vis de leur propre peuple, et donc s'y avère les intérêts de leur propre peuple avant tout, plutôt que de s'enrichir, ne seront pas amenés à quitter la région aussitôt qu'on en souhaiterait. Ça, c'est certain.
Maître Arnaud de Velay, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. We'll be right back.
l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit du 12 au 13 décembre dans une attaque d'une barbarie inouïe attribuée aux terroristes takfiristes issus de Boko Haram dans le sud-est du Niger, quelques heures avant l'ouverture des scrutins municipaux et régionaux dans le pays. Il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l'œuvre de Boko Haram, a affirmé à l'agence France Presse un responsable du département de Bosso, dont relève le village de Toumour, où a eu lieu l'attaque, dans la région de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria. Un élu local qui a évoqué une barbarie inouïe, a souligné que le village avait été détruit à 60%. Ce massacre est survenu au moment des élections municipales et régionales dans le pays et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre, qui verra le président Mahamadou Issoufou quitter le pouvoir après 2 mandats. Quelques 7,4 millions de Nigériens étaient appelés à élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 266 communes du pays, pour ce double scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2016. Les bureaux ont fermé en fin de journée et le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble du pays, selon la Commission électorale nationale, qui a commencé à centraliser dimanche à Niamey les résultats. Ces élections constituent une répétition avant les scrutins législatifs et présidentiels du 27 décembre, censés donner lieu à la première transmission du pouvoir sans violence dans l'histoire de cette ancienne colonie française, a estimé le président Issoufou. Mais de nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les attaques terroristes qui frappent depuis 2015 l'ouest et le sud-est du pays n'avaient pas pu être enregistrés. Le vote n'a pu se tenir à Toumour en raison de l'attaque. Certaines victimes ont été tuées ou blessées par balles, d'autres calcinées à l'intérieur des cases totalement consumées par les flammes d'un énorme incendie provoqué par les assaillants, a expliqué le responsable du département qui a requis l'anonymat. Il a précisé que près d'un millier de maisons avaient été incendiées, ainsi que le marché central de la ville. Les assaillants, dont le nombre est estimé à près de 70, sont arrivés à Toumour vers 18h45, hors local, à pied, après avoir traversé à la nage les eaux du lac Tchad et ont sévi pendant 3 heures, a-t-il raconté. Ils ont d'abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis. Le groupe takfiriste Boko Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des bases sur certains des multiples îlots parsemant le lac Tchad, une vaste étendue marécageuse à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Depuis 2016, le groupe Boko Haram s'est divisé en 2 factions. Celle d'Aboubakar Shekou, le chef historique du groupe, et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, affilié à Daesh. Les autorités nigériennes ne font pas la différence entre les membres de Boko Haram et de l'ISWAP, qualifiant tous ces combattants takfiristes comme des éléments de Boko Haram. Les assaillants ont fait irruption vers 19h en grand nombre en tirant et en mettant le feu aux habitations, a témoigné sur Facebook un habitant de Toumour. Boko Haram a tout incendié, nous avons tout perdu. Il ne me reste plus que la chemise que je porte. Et il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine, crie un autre habitant dans une vidéo tournée sur les ruines d'habitation détruites en centre. La région de Diffa abrite, selon l'Organisation des Nations Unies, 300 000 réfugiés nigérians et déplacés nigériens fuyant depuis 2015 les exactions des terroristes takfiristes. Diffa, la capitale régionale de 200 000 habitants, située à la frontière avec le Nigeria, a été attaquée à 4 reprises au mois de mai. Malgré les annonces récurrentes de victoires militaires, Boko Haram et l'ISWAP continuent à sévir. Les groupes sont responsables en 11 années d'insurrection de la mort d'au moins 36 000 personnes et de quelques 2 millions de déplacés selon l'Organisation des Nations Unies. Outre Boko Haram, le Niger doit faire face dans l'ouest à ses frontières avec le Mali et le Burkina, à des attaques des groupes takfiristes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara. Le 13 décembre, de violents affrontements ont éclaté entre les militants du mouvement Mouradine al-Zanki et les terroristes de Tahrir al-Sham à Afrin, zone occupée par la Turquie dans le nord de la Syrie. Alors qu'au départ, il ne s'agissait que d'un simple désaccord où des militants d'al-Zanki ont agressé un militant de Tahrir al-Sham, la situation a dégénéré. Des centaines de militants des deux côtés ont pris part aux affrontements qui ont duré presque toute la journée et où des armes lourdes ont été utilisées, faisant régner un climat de panique en Jindires, ville du nord de la Syrie, dans le district d'Afrin, écrit le site d'information South Front. Al-Zanki est un groupe terroriste soutenu par la Turquie qui fait partie des plus importants groupes actifs de l'ouest de la province syrienne d'Alep. En 2018, le groupe a été chassé de la région par l'armée syrienne. Selon des sources, l'un des militants du front Tahrir al-Sham a été tué dans les affrontements. Plusieurs autres militants des deux groupes auraient été blessés. Les affrontements ont pris fin suite à l'intervention de la police militaire libre, organisme d'application de la loi soutenu par la Turquie. Un accord de réconciliation entre les dirigeants d'al-Zanki et ceux de Tahrir al-Sham a été conclu par la suite. Ces conflits sont assez courants dans les zones occupées par la Turquie, dans le nord et le nord-est de la Syrie. La Turquie n'intervient généralement pas, susceptible de maintenir des relations équilibrées avec tous ses mandataires. Le ministère turc de la Défense a confirmé le meurtre de deux de ses soldats vendredi à la suite d'une explosion dans la campagne du nord-ouest du gouvernorat syrien de Hasaké. Selon un communiqué du ministère turc de la Défense, le capitaine Yassin Kurt et le sergent Oguz Han Anar ont été tués dans l'explosion qui a également fait des dizaines de blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vitrine médiatique de l'opposition syrienne pro-occidentale, 16 personnes, dont deux soldats turcs, ont été tuées jeudi par l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Ras al-Ain, actuellement sous contrôle des forces turques. Le ministère turc de la Défense a imputé l'attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion.